en ce qui me concerne, je vais essayer brièvement de vous parler de l'information produite en France par des Français sur l'Afrique et adressée à des Français. Je dirais, pour faire un parallèle que je ne pense pas hasardeux, qu'il en va de l'information sur l'Afrique comme de la politique africaine de la France, à savoir que c'est un domaine réservé. Un domaine réservé qui échappe donc aux règles générales de la manière dont une profession, les journalistes en l'occurrence, fonctionne, qui déroge aussi à ce qu'on est en droit d'attendre dans un état de droit et dans un état où l'information est libre. Un continent entier, c'est quand même un objet d'étude suffisamment conséquent pour que différentes analyses, différents regards, différentes approches se croisent et dégagent non pas une vérité, mais en tout cas nous permettent à nous citoyens de nous faire une opinion. En l'occurrence, en ce qui concerne l'Afrique, l'information est totalement accaparée par des gens que nous avons baptisés depuis que l'un d'entre eux, sans doute le plus célèbre, a publié un livre qui s'appelle « Négrologie ». Donc ces gens sont des négrologues apparemment, mais plus récemment ils ont tombé le masque sur un mot qui leur va comme un gant et qui est un mot beaucoup moins polémique, c'est le mot d'africaniste. On a appris très récemment à l'occasion du livre qui vient de sortir de Pierre Péan que Pierre Péan était un africaniste, non pas un journaliste, et on a appris dans le même livre que Stephen Smith, puisque Stephen Smith répond à l'ouvrage Négrophobie, qui est l'ouvrage que les Arènes ont publié en réponse à son livre Négrologie, que Stephen Smith était lui aussi un africaniste. Alors ça peut vous paraître un détail, moi ça me paraît très important, parce que journaliste, je sais ce que c'est un métier, et on est journaliste, on peut aller traiter des affaires de société, des affaires économiques, de l'international, etc. Mais de voir que des gens aujourd'hui, en 2005, journalistes traitant quasiment exclusivement, pour le cas de Smith, de l'Afrique, se définissent comme africanistes, ben, je pense que ça nous renvoie tout simplement à la conception de l'Afrique qu'a la société française en général, et qui me semble malheureusement ancrée dans le 19e siècle et dans une période coloniale qu'on sait, qu'on pense révolue, mais dont apparemment il reste des stigmates très importants pour le malheur de l'Afrique et pour le malheur de la société française qui, à mon sens, ne peut pas saisir les enjeux du pays auquel elle appartient et de la criminalité générale que ce pays peut générer en Afrique. L'africanisme, pour moi, c'est un terme qui doit être interrogé, parce que ce que ça sous-entend, c'est que l'Afrique ne s'appréhende pas par les historiens, pas par les sociologues, pas par les économistes et pas par les journalistes. L'Afrique s'appréhende par les africanistes. Jean-Pierre Chrétien, qui est un historien de l'Afrique, précisait dans un entretien là, il y a quelques mois ou 2-3 ans à Libération, et c'était sa première réponse à la première question, non, surtout pas, je ne suis pas un africaniste, je suis un historien de l'Afrique. Je m'intéresse à des processus historiques, politiques qui surviennent en Afrique comme ils peuvent survenir en Europe. L'idée d'être africaniste, c'est l'idée qu'il y aurait une essence africaine et qu'il faudrait donc des gens formés spécialement pour appréhender cette essence. Autrement dit, quand vous êtes africaniste, eh bien, de Djibouti jusqu'à la Côte d'Ivoire, du Tchad jusqu'au Zimbabwe, vous êtes compétent parce que l'Africain est l'Africain et que cette formation d'africaniste vous permettrait d'en appréhender la réalité. C'est quelque chose qui me semble extrêmement pernicieux et dangereux, d'autant plus que cette logique d'africaniste s'accompagne de deux choses. La première, c'est qu'un nombre extrêmement réduit de journalistes peuvent régner sur l'information sur l'Afrique qu'on adresse au public français. Et dans le cas de Stephen Smith et de son collègue plus discret, Antoine Glaser, qui est donc le directeur depuis pas mal d'années, ou le rédacteur en chef de la Lettre du Continent, une lettre confidentielle, en gros, pour les milieux décisionnaires, économiques, diplomatiques et autres, eh bien, deux personnes parviennent depuis 15 ans à délivrer une parole sur l'Afrique à laquelle aucun de leurs confrères des grands médias généralistes ne saurait déroger. On en a des confirmations encore aujourd'hui dans un article de Libération où quiconque connaît l'œuvre de Stephen Smith se reconnaît que chez ses héritiers à Libération, eh bien, on a énormément de mal à s'écarter dans l'analyse des grands dogmes de la pensée de Stephen Smith. L'un de ces dogmes étant, depuis 10 ans, que la France aurait perdu l'Afrique. Et je pense que les Africains auraient manifesté leur joie si c'était vraiment le cas, et j'ai bien peur que ce ne soit pas le cas. Le problème est donc que deux personnes parviennent à donner des axes d'information, des axes analytiques, des axes informatifs, et que derrière toute une profession, eh bien, suit les oracles et se cantonne à ce qui peut être dit sur l'Afrique, et en particulier, puisque c'est bien ça le nœud problématique, ce qui peut être dit du rapport de l'Afrique et de la France. Parce que s'il s'agissait uniquement de l'Afrique, à la limite, on pourrait peut-être avoir une information moins verrouillée. Donc le premier aspect, c'est pour moi ce domaine réservé et ce regard essentialiste, un petit peu comme si un journaliste du Burkina Faso pouvait se dire spécialiste de l'Europe, hein, du Finistère jusqu'à la Russie. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a dans l'attitude des médias français sur l'Afrique une attitude qui, au fond, se rattache à une évolution qui est beaucoup plus générale et que vous retrouverez en détail dans les 366 pages de l'Almanach critique des médias. Bon, c'est-à-dire une production de discours et une production d'informations qui, globalement, se rattache aux intérêts de milieux que je qualifierais, pour aller vite, de milieux dominants, de milieux décisionnaires d'une petite aristocratie ou d'une oligarchie qui règne à la fois sur l'économie, qui règne sur la diplomatie, qui règne sur la politique. Et donc, on assiste à une évolution certaine qui est que on ne donne pas aujourd'hui dans les médias français la parole à n'importe qui, et quand on la donne, eh bien on la donne à des gens qui peuvent se prévaloir d'un certain statut. Alors pour donner un exemple qui nous fait sortir du cas de l'Afrique, j'ai été assez surpris de voir récemment, à propos des émeutes dans les banlieues, un plateau dans l'émission de Daniel Schneiderman, où était invité à s'exprimer notamment Françoise Laborde de France 2, un jeune journaliste d'Europe 1, et Schneiderman leur avait concocté un petit montage de la manière dont ils avaient rendu compte, hein, de ce qui s'était passé, notamment sur la première semaine. Bon, je passe les détails, il en ressortait qu'en gros, la version qui était donnée était la version exclusivement policière, ce qui, dans certains cas, et c'était le cas, entraînait une désinformation, puisque la police étant partie prenante des événements, c'est une règle journalistique de base. Quand vous interrogez quelqu'un qui est partie prenante d'un événement que vous prétendez analyser, le minimum, c'est de croiser vos sources et d'aller voir l'autre camp ou des observateurs extérieurs. Et donc, on apprenait par ces journalistes qui disaient ça d'une manière candide, ben oui, le ministère de l'Intérieur, il a des moyens, et puis il est censé être sérieux, puisque c'est le ministère de l'Intérieur. Mais à contrario, vous savez, les jeunes des banlieues, il y a beaucoup de rumeurs chez les jeunes des banlieues. En l'occurrence, les jeunes des banlieues dont on parlait, c'était des témoins directs de l'histoire que vous connaissez tous, de ce drame qui est survenu dans un transformateur EDF. Eh bien, cette parole-là, cette parole de quelqu'un qui a vécu, qui a vu, qui était là, n'a pas de valeur. En revanche, le ministre de l'Intérieur, qui lui a beaucoup d'agenda, un agenda politique et beaucoup d'intérêts à défendre, lui était crédible. Pourquoi ? Parce qu'il était une autorité. Voilà. Eh bien, dans le cas de l'Afrique, on retrouve ça. C'est-à-dire que celui qui peut s'exprimer, c'est le haut fonctionnaire de la Banque mondiale ou du PNUD ou d'une grande ONG reconnue. Aller interroger un militant de base, un militant africain ou un militant européen très impliqué dans les luttes en Afrique, c'est presque obscène pour un grand journal. Je veux dire par grand journal, un quotidien d'information générale, une télé, etc. Donc ça, c'est le deuxième phénomène, et j'en ai trois, je ne vais pas m'éterniser. C'est cette gestion des sources officielles et ce refus, cette détestation des gens qui vivent les événements et qui luttent contre des formes d'exploitation ou pour cesser un certain type d'indignité. Bon, c'est une des raisons, à mon sens, qui font qu'on ne peut pas percevoir les réalités et les luttes africaines parce que, au fond, on aura toujours une pleine page à donner à un chef d'État comme Bongo, comme Sassou. On aura toujours une pleine page à donner au ministre français de la coopération. Ça, c'est de l'information. Espérer qu'un acteur d'un mouvement d'opposition africain ou que pour parler de l'association survie Odile Taubner, nouvelle présidente, puisse avoir une pleine page pour évoquer les problématiques qui se posent maintenant sur telle ou telle zone, parler de ce qui s'est passé à Djibouti ou parler du Rwanda ou parler de la Côte d'Ivoire, ça c'est déplacé. Voilà. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il y a une sorte de blocage de l'information. Et puis la troisième grande raison, mais voilà, c'est un tri sélectif et il y en a forcément beaucoup d'autres, ben c'est tout simplement les préjugés, la persistance des préjugés dans le regard que l'on porte sur l'Afrique. Je ne voudrais pas m'étendre sur le livre récent de Pierre Péan parce que j'aurais beaucoup trop de choses à en dire et je vais prendre le temps de la réflexion avant de les dire, mais j'ai eu la surprise et pour vous dire sincèrement, le profond désarroi et l'effarement d'entendre Pierre Péan interviewé sur France Inter il y a trois jours dans l'émission Charivari. Effaré, pourquoi ? Effaré parce que Pierre Péan vient de publier un livre qui, à mes yeux, est ouvertement de l'incitation à la haine raciale contre la population Tutsi, qui, accessoirement, est un ouvrage de pur négationnisme à l'égard d'un génocide, qui, par ailleurs, est un livre de blanchiment des responsabilités politiques françaises dans un crime majeur, qui est un crime colonial, et que franchement, savoir qu'un des journalistes considérés comme un des plus grands journalistes d'investigation travaille comme un petit télégraphiste de la cellule élyséenne 10 ans après la mort de Mitterrand, c'est affligeant. Mais ce qui m'a le plus effaré, c'est la candeur avec laquelle Pierre Péan a été reçu par un animateur de France Inter. Un animateur qui, au milieu de la discussion, entre des questions purement complaisantes et puis quelques questions qu'on avait dû lui préparer sur des fiches parce que le génocide au Rwanda, ça avait l'air de lui être passé vraiment au-dessus de la tête, qui à un moment donné, mais rigolait presque à s'en taper sur les cuisses avec Pierre Péan en disant que c'est vrai que quand on y pense, les Tutsis traduisaient le FPR, puisque quand on parle de l'Afrique, FPR égale Tutsi et Tutsi égale FPR, puisqu'il n'y a pas de réalité politique africaine qui dépasserait l'ethnie. Et donc, l'animateur lui disait, bah, c'est vrai. 10%, les Tutsis avaient perdu 5% grâce à France Inter, 10% de la population au pouvoir, je ne rentre pas du tout dans un discours sur mon avis sur le FPR, je veux simplement vous dire qu'il y a quelque chose qui a la vie dure, c'est l'idée qu'en Afrique, le politique ne peut s'exprimer que par l'ethnie. Ce qui, dans le cas du Rwanda, est une aberration, non pas quand on réfléchit au FPR, mais quand on réfléchit au Hutu d'avant le génocide ou d'après, à savoir qu'il y avait au Rwanda une population Hutu qui était extrêmement scindée, politiquement. Bon, eh bien cette version-là, elle a été ressortie par Hubert Védrine en 98 devant la mission parlementaire d'information, dite de multiples fois par des officiels français, et un animateur de France Inter en 2005 trouvait encore le moyen d'avoir cette simplification. L'Afrique, c'est l'ethnie, et c'est un horizon indépassable. Je voudrais aussi juste donner deux autres exemples, c'est que donc il y a le regard et qui est extrêmement dangereux, puisqu'on ne peut pas appréhender depuis la France les luttes politiques africaines si on réduit les populations d'Afrique à leur ethnie, et l'ethnie c'est le mot poli pour dire tribu, parce que dans l'inconscient collectif c'est de tribu qu'on parle. L'autre regard sur l'Afrique, c'est les tragédies humanitaires. C'est par exemple la couverture, je ne sais pas, dans les 6 derniers mois de Télérama, on interpelle, ça part sans doute d'un excellent sentiment, c'est la famine, voilà, c'est... on doit bouger, ou plutôt l'Omerta, enfin Télérama qui fait une couve en disant, ben, en gros, on est les seuls à en parler, personne n'en parle. Ben, les famines en Afrique, le sida en Afrique, c'est la seule vision qu'on a de l'Afrique. Cette vision misérabiliste, où au fond, à partir du moment où vous présentez l'information, elle va de pair avec un sous-entendu qui est, il faut qu'on les aide. Et continue ce regard et ce parcours missionnaire, ou de dame patronesse, qui est que l'Afrique ne peut pas prétendre à l'émancipation et à l'autonomie. Et puis, le dernier épisode, et là je prendrai l'exemple d'envoyé spécial, parce que là je me demande jusqu'à quand ils vont nous les enchaîner, les sujets de ce type, bah, c'est que l'Afrique, c'est aussi au fond, nous ça nous rassure, parce qu'on aime bien regarder l'Afrique comme étant notre propre Moyen-Âge. Alors par exemple, récemment, j'ai vu une série, mais comme ça, sans forcément les regarder, d'envoyé spécial, qui a fait 1, puis 2, puis 3 sujets. En gros, c'était l'exploitation des talibés, donc des jeunes élèves de l'école coranique au Tchad, où le chef de l'État tchadien, pour lequel je n'ai aucun type de sympathie, mais a quand même dû venir s'expliquer pour dire non, attendez, etc. C'est-à-dire que on vient porter un regard sur une société... pour dire, attendez les copains, là, ça va pas du tout, et donc quasiment on convoque le chef de l'État, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'à Paris, chez les diplomates, qu'on convoque les chefs de l'État africains, on les convoque aussi à envoyer spécial en leur disant, promets-moi que vous n'allez pas refaire ça. Et puis, là, le grand truc, en ce moment, c'est l'esclavage au Niger, alors ça pourrait aussi bien être en Mauritanie, etc. Alors, les causes peuvent être justes, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire du relativisme culturel, ni sur l'esclavage, ni sur l'exploitation d'enfants, qu'ils soient talibés ou autres, mais... Je vois derrière ça, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur la société française, sur les discriminations qu'elle pratique, sur les oppressions qu'elle pratique, sur les lois antisociales qu'elle adopte à la chaîne, sur les lois de régression générale qu'elle adopte à la chaîne. Que viendrait dire un observateur péruvien en regardant comment fonctionne la société française? Est-ce que lui aussi convoquerait le président, le ministre de l'Intérieur, pour lui dire « Mais vous vous rendez compte, là, du sort que vous réservez à tel type de population, tous ces gens qui vivent dans la rue, ces populations basanées qui n'ont pas accès au travail ou au logement, etc. etc. » Donc, voilà, c'est pour vous dire, et je termine là-dessus, et moi j'ai juste fait le constat, alors je ne veux pas terminer sur une note négative, c'est-à-dire que tous nos amis ici agissent dans des revues, ça m'est arrivé à moi aussi, actuellement je travaille dans une maison d'édition, et puis, ben voilà, on s'efforce de faire, à travers l'édition indépendante, de faire partie de ce combat, de favoriser la prise de conscience, de faire passer les informations étouffées, et de donner des analyses qui ne sont pas portées par ailleurs. Donc ça se fait aussi dans des livres. Et puis, bien évidemment, je crois que pour l'Afrique, l'Internet est un outil incontournable parce que c'est un des outils qui permettent de passer à travers le filtre, puisque bien évidemment, les publications indépendantes ont le problème de la diffusion pour toucher les gens. On ne peut pas imprimer 200 000 exemplaires et les mettre en kiosque dans toute la France. On est obligé donc d'avoir un terrain de diffusion restreint. C'est parfois le cas aussi pour les livres. L'Internet parfois permet de dépasser, d'aller plus loin, de recueillir aussi beaucoup d'informations brutes dont on n'entendrait pas parler par ailleurs, etc. etc. Voilà, donc lisez et informez-vous à travers ces sources-là.